Chapitre 17. Le secret de Bathilda.
Harry, arrête-toi.
Qu'est-ce qu'il y a?
Il venait d'atteindre la tombe de la botte inconnue.
Il y a quelqu'un ici. Quelqu'un nous observe, je le sens là-bas près des buissons.
Ils s'immobilisèrent serrés l'un contre l'autre, le regard fixé sur les arbres noirs qui marquaient la limite du cimetière. Harry ne voyait rien.
Tu es sûr? Quelque chose a bougé, j'en jurerais.
Elle s'écarta de lui pour libérer son bras et prit sa baguette.
« On a l'air de moldus, » fit remarquer Harry.
« Des moldus qui viennent de déposer des fleurs sur la tombe de tes parents. Harry, je suis persuadé qu'il y a quelqu'un là-bas. »
Harry pensa à l'histoire de la magie. Le cimetière était censé être hanté.
« Et si ?»
Mais il entendit alors un bruissement et vit un petit tourbillon de neige tomber du buisson que montrait Hermione. Les fantômes ne pouvaient pas remuer la neige.
« C'est un chat, » dit Harry un instant plus tard, « ou un oiseau. S'il s'agissait d'un mange-mort, il nous aurait déjà tués.
Mais commençons par sortir d'ici, ensuite on pourra remettre la cape d'invisibilité. »
Ils quittèrent le cimetière en jetant de fréquents coups d'œil derrière eux. Harry, qui ne se sentait pas aussi confiant qu'il l'avait prétendu pour rassurer Hermione, fut content de franchir la porte et de retrouver le trottoir glissant. Ils se couvrirent aussitôt de la cape d'invisibilité. Dans le pub, il y avait encore plus de monde qu'auparavant. À l'intérieur, des voix chantaient à nouveau le cantique qu'ils avaient entendu en s'approchant de l'église. Pendant un instant, Harry songea à s'y réfugier, mais avant qu'il ait pu dire un mot, Hermione murmura
« Allons par là !»
Et elle l'entraîna le long de la rue sombre qui menait hors du village, dans la direction opposée à celle d'où ils étaient venus. Harry distinguait au loin le point où finissaient les deux rangées de maisonnettes et où le chemin bifurquait à nouveau dans la campagne. Ils marchèrent aussi vite que possible, passant devant d'autres fenêtres qui étincelaient de lumière multicolore, des sapins de Noël dessinant leurs silhouettes sombres à travers les rideaux.
« Comment allons-nous retrouver la maison de Bathilda ?»
demanda Hermione, qui frissonnait un peu et ne cessait de regarder par-dessus son épaule.
« Harry, qu'en penses-tu, Harry ?»
Elle le tira par le bras, mais Harry ne lui prêta aucune attention. Il regardait la masse obscure qui se dessinait tout au bout d'une rangée de maisons. Un instant plus tard, il accéléra le pas, entraînant Hermione, dont les pieds glissaient un peu sur la glace.
« Harry ?»«
Regarde !»« Regarde ça, Hermione !»«
Je ne... Oh !»
Enfin, il la voyait. Le charme de Fidelitas avait dû mourir avec James et Lily. La haie, laissée à l'état sauvage, avait poussé en tous sens au cours des 16 années écoulées. Depuis que Hagrid avait recueilli Harry parmi les décombres éparpillés dans l'herbe, si haute à présent qu'elle arrivait jusqu'à la taille. La plus grande partie du cottage était restée debout, entièrement recouverte de lierre et de neige, mais l'aile droite du dernier étage avait été détruite. C'était là que le maléfice s'était retourné contre son auteur. Harry en était sûr. Hermione et lui se tenaient devant la porte, contemplant les ruines de ce qui avait dû être une petite maison semblable à celle qui l'entourait.
« Je me demande pourquoi personne ne l'a jamais reconstruite, »
murmura Hermione.
« Peut-être que c'est impossible, » répondit Harry. « Comme pour les blessures dues à la magie noire, on ne peut pas réparer les dégâts. »
Glissant une main sous la cape, il saisit la porte couverte de neige et d'une épaisse couche de rouille. Il ne voulait pas l'ouvrir, simplement toucher quelque chose qui appartenait à la maison.
« Tu ne vas pas entrer à l'intérieur. Ça n'a pas l'air très sûr. Il se pourrait que... Oh, Harry, regarde !»
Le contact de sa main sur la porte semblait avoir provoqué le phénomène. Un écriteau s'était élevé du sol, sous leurs yeux, à travers un enchevêtrement d'orties et de mauvaises herbes, telle une étrange fleur à la croissance instantanée. En lettres d'or gravées sur le bois, on pouvait lire. « En ce lieu, dans la nuit du 31 octobre 1981, Lily et James Potter perdirent la vie. Leur fils, Harry, demeure le seul sorcier qui ait jamais survécu au sortilège de la mort. Cette maison invisible aux moldus a été laissée dans son état de ruine comme un monument à la mémoire des Potters et pour rappeler la violence qui a déchiré cette famille. Tout autour de ces mots soigneusement tracés, des inscriptions avaient été ajoutées par d'autres sorcières et sorciers venus voir l'endroit où le survivant avait échappé à la mort. Certains avaient simplement signé de leur nom en encre éternelle. D'autres avaient gravé leurs initiales dans le bois. D'autres encore avaient écrit des messages. Les plus récents, dont l'éclat tranchait sur les autres graffitis magiques accumulés depuis 16 ans, exprimaient tous des pensées semblables. « Bonne chance, Harry, où que tu sois. Si tu lis ceci, Harry, sache que nous sommes tous derrière toi. Vive Harry Potter !»«
Il n'aurait pas dû écrire sur la pancarte, »
s'indigna Hermione. Mais Harry la regarda avec un sourire rayonnant.
« Au contraire, c'est une idée formidable. Je suis ravi qu'il l'ait fait, Il s'interrompit.
Une silhouette emmitouflée jusqu'au cou s'avançait vers eux d'un pas vacillant le long de l'allée, ses contours découpés par les lumières qui étincelaient au loin sur la place du village. Bien qu'il fût difficile d'en juger, Harry pensa qu'il s'agissait d'une femme. Elle se déplaçait lentement, ayant peut-être peur de glisser sur le sol neigeux. Son dos voûté, sa corpulence, sa démarche traînante, tout donnait l'impression qu'elle était d'un âge extrêmement avancé. Silencieux, ils la regardèrent s'approcher. Harry attendait de voir si elle allait bifurquer vers l'un des cottages devant lequel elle passait, mais il sut instinctivement que ce ne serait pas le cas. Elle s'arrêta enfin à quelques mètres et resta face à eux, au milieu du chemin au sol gelé. Harry n'avait pas besoin qu'Hermione lui pince le bras. Il n'y avait pratiquement aucune chance pour que cette femme soit une moldue. Elle se tenait là, les yeux fixés, sur une maison qui aurait dû lui être totalement invisible si elle n'avait pas été une sorcière. Mais même en admettant qu'elle en fût une, c'était un étrange comportement que de sortir par une nuit si froide pour venir simplement contempler une vieille ruine. Selon toutes les règles de la magie classique, elle n'aurait pas dû les voir, Hermione et lui. Pourtant, Harry eut la très étrange impression qu'elle percevait leur présence et savait aussi qui ils étaient. Alors qu'il en arrivait à cette troublante conclusion, elle leva une main gantée et leur fit signe. Sous la cape, Hermione se serra contre Harry, pressant son bras contre le sien.
« Comment c'est-elle ?»
Il hocha la tête. La femme leur fit à nouveau signe d'un geste plus vigoureux. Harry aurait eu de bonnes raisons de ne pas obéir à cet appel. Mais plus leur face-à-face se prolongeait dans la rue déserte, moins il avait de doutes sur son identité. Était-il possible qu'elle les eût attendus tout au long de ces derniers mois? Que Dumbledore lui ait demandé d'attendre en lui assurant que Harry finirait par venir? N'était-ce pas elle qu'ils avaient vu bouger dans les ombres du cimetière et qui les avait suivis jusqu'ici? Sa faculté même de sentir leur présence laissait supposer un pouvoir à la Dumbledore qu'il n'avait jamais vu se manifester auparavant. Enfin, Harry parla, ce qui fit sursauter Hermione.
« Êtes-vous Bathilda ?»
La silhouette emmitouflée acquiesça d'un hochement de tête et leur adressa un nouveau signe de la main. Sous la cape, Harry et Hermione échangèrent un regard. Harry haussa les sourcils d'un air interrogateur et Hermione répondit d'un petit mouvement de tête nerveux. Ils s'avancèrent alors vers la femme qui pivota aussitôt sur ses talons et revint sur ses pas d'une démarche chancelante. Elle passa devant plusieurs maisons, puis bifurqua vers un portail. Ils la suivirent le long d'une allée qui traversait un jardin presque aussi touffu que celui qu'ils venaient de quitter. Elle remua maladroitement une clé dans la serrure de la porte qu'elle finit par ouvrir et recula d'un pas pour les laisser entrer.
Elle ne sentait pas très bon. Ou peut-être était-ce la maison?
Harry fronça le nez lorsqu'ils se faufilèrent devant elle et ôtèrent leur cap. À présent qu'ils étaient à côté d'elle, il vit à quel point elle était petite. Courbée par l'âge, elle lui arrivait à peine à la poitrine. Elle referma la porte derrière eux, les jointures de ses mains bleuâtres et marbrées se détachant contre la peinture écaillée. Puis elle se tourna vers Harry et le regarda bien en face. Ses yeux étaient obscurcis par la cataracte et s'enfonçaient dans les plis de sa peau diaphane. Son visage tout entier était constellé de petits vaisseaux éclatés et de taches de vieillesse. Il se demanda si elle était capable de le voir, si peu que ce soit. Et même si elle l'avait pu, elle n'aurait distingué que le moldu dont il avait volé l'apparence. L'odeur de grand âge, de poussière, de vêtements sales et d'aliments gâtés s'intensifia lorsqu'elle ôta son châle noir mangé au mythe, révélant une tête aux cheveux blancs et rares sous lesquels on voyait nettement la peau du crâne.
« Bathilda ?»
répéta Harry. Elle acquiesça d'un nouveau signe de tête. Harry prit conscience de la présence du médaillon contre sa poitrine. La chose qui, parfois, battait, palpitait à l'intérieur, s'était réveillée. Il percevait ses pulsations à travers l'or froid. Le médaillon savait-il, sentait-il, que ce qui allait le détruire était proche? Bathilda passa devant eux d'un pas traînant, repoussant Hermione comme si elle ne l'avait pas vue, et disparut dans ce qui paraissait être un salon.
Harry, je ne sais pas si nous avons eu raison, dit Hermione dans un souffle.
Tu as vu comme elle est minuscule. Je crois que nous n'aurions pas de mal à la neutraliser si c'était nécessaire, répondit Harry.
Écoute, j'aurais dû te le dire, elle n'a plus toute sa tête. Muriel a dit qu'elle était gaga.
Venez,
appela Bathilda dans la pièce voisine. Hermione sursauta et s'agrippa au bras de Harry.
« Tout va bien, » lui dit-il d'un ton rassurant.
Et il l'entraîna dans le salon. Bathilda faisait le tour de la pièce d'un pas vacillant pour allumer des chandelles, mais l'endroit restait sombre, sans parler de l'extrême saleté. Une épaisse poussière craquait sous leurs pieds, et le nez de Harry détecta, derrière l'odeur d'humidité et de moisie, quelque chose de pire, comme de la viande pourrie. Il se demanda quand, pour la dernière fois, quelqu'un était venu vérifier comment Bathilda se débrouillait toute seule. Elle semblait avoir oublié qu'elle-même était capable d'utiliser la magie, car elle allumait maladroitement les chandelles à la main, sa manchette en dentelle qui pendait sous son poignet, menaçant à tout moment de prendre feu. « Laissez-moi faire, » proposa Harry, et il lui prit les allumettes des mains. Elle resta là, debout, à le regarder, allumer les bouts de chandelles collés dans des soucoupes un peu partout autour de la pièce, en équilibre précaire sur des piles de livres et des dessertes encombrées de tasses craquelées couvertes de moisissures. La dernière chandelle était posée sur une commode arrondie où se trouvait également toute une série de photos. Lorsque la flamme jaillit, son reflet dansa sur les cadres d'argent au vert poussiéreux.
Harry perçut quelques infimes mouvements sur les images.
Pendant que Bathilda fouillait maladroitement dans les bûches pour préparer un feu, il marmonna
« Tergéo ».
La poussière se dissipa, et il vit aussitôt qu'une demi-douzaine de photos manquaient dans les cadres les plus grands et les plus ornementés. Il se demanda si c'était Bathilda ou quelqu'un d'autre qui les avait enlevées. Une photo placée à l'arrière de la collection attira alors son regard et il la prit pour la regarder de plus près.
Elle représentait le voleur aux cheveux d'or et au visage réjoui, le jeune homme qu'il avait vu percher sur le rebord de la fenêtre de Grégorovitch. Dans son cadre d'argent, il souriait nonchalamment à Harry. Et tout à coup, il se rappela où il l'avait déjà vu.
Dans « Vie et mensonge » d'Albus Dumbledore, en compagnie de Dumbledore adolescent, tous deux se tenant par les épaules.
Sans doute était-ce là que se trouvaient les photos manquantes, dans le livre de Rita.
Miss Tour de Sac, dit-il d'une voix légèrement tremblante. Qui est ce garçon?
Bathilda, debout au milieu de la pièce, regardait Hermione allumer le feu à sa place.
« Mistour de sac !» répéta Harry.
Il s'avança vers elle, la photo à la main, tandis que les flammes s'animaient dans la cheminée. Bathilda leva la tête au son de sa voix et il sentit l'horcruxe se battre plus fort contre sa poitrine.
« Qui est cette personne ?» demanda Harry en lui tendant la photo.
Elle la regarda d'un air grave, puis leva à nouveau les yeux vers Harry.
« Vous savez qui c'est ?» insista-t-il d'une voix plus lente et plus sonore qu'à l'ordinaire. « Cet homme, vous le connaissez ? Comment s'appelle-t-il »
Bathilda avait le regard vague. Harry éprouva une terrible frustration. Comment Rita Skeeter avait-elle réussi à la faire parler ?«
Qui est cet homme ?» répéta Harry d'une voix forte.
« Mais Harry, qu'est-ce que tu fabriques ?» interrogea Hermione.
« La photo, Hermione, c'est le voleur qui a dérobé quelque chose à Gregorovitch.
S'il vous plaît, » reprit-il à l'adresse de Bathilda,
« qui est-ce »
Mais elle se contenta de l'observer en silence.
« Pourquoi nous avez-vous demandé de venir avec vous, Miss Tour-de-Sac ?»
demanda Hermione, qui haussa également la voix.
« Aviez-vous quelque chose à nous dire ?»
Sans le moindre signe indiquant qu'elle avait entendu Hermione, Bathilda s'approcha un peu plus de Harry. D'un petit mouvement sec de la tête, elle regarda vers le couloir.
Vous voulez qu'on s'en aille ?
Demanda-t-il. Elle répéta son geste, pointant cette fois un doigt vers lui, puis vers elle, et enfin vers le plafond.
Ah ! Très bien.
Hermione, je crois qu'elle veut que je monte là-haut avec elle.
« D'accord, » dit Hermione, « allons-y. »
Mais lorsqu'elle se dirigea vers la porte, Bathilda hocha la tête avec une vigueur surprenante, pointant le doigt une fois de plus sur Harry, puis sur elle-même.
« Elle veut que je vienne seule. Pourquoi ?»
s'étonna Hermione. Sa voix résonna claire et forte dans la pièce éclairée par la lueur des chandelles. La vieille dame, réagissant à ce bruit soudain, secoua un peu la tête.
« Peut-être Dumbledore lui a-t-il dit de ne confier l'épée qu'à moi, et à moi seul. »« Tu crois vraiment qu'elle sait qui tu es ?»«
Bah oui, » répondit Harry, en regardant les yeux laiteux fixés sur lui.
« Oui, je crois que oui. »« Bon, alors d'accord, mais fais vite, Harry. »«
Je vous suis, » dit-il à Bathilda. Elle sembla comprendre, car elle le contourna de son pas traînant et se dirigea vers la porte. Harry jeta un regard à Hermione en lui adressant un sourire rassurant. Mais il n'était pas certain qu'elle l'ait vue. Elle se tenait immobile, les bras serrés contre elle, au milieu de ce décor sordide, à la lueur vacillante des chandelles, en regardant la bibliothèque. Lorsque Harry quitta la pièce, il profita de ce que ni Bathilda ni Hermione ne le voyaient pour glisser dans une poche intérieure de sa veste la photo du voleur inconnu dans son cadre d'argent. L'escalier était étroit et raide. Harry fut presque tenté de poser les mains sur le large postérieur de Bathilda pour s'assurer qu'elle n'allait pas basculer en arrière et tomber sur lui, ce qui paraissait très probable. Lentement, la respiration un peu sifflante, elle grimpa les marches jusqu'au palier supérieur, tourna tout de suite à droite et la mena dans une chambre au plafond bas. L'obscurité était totale et l'odeur abominable. Harry eut le temps d'apercevoir un pot de chambre qui dépassait de sous le lit avant que Bathilda referme la porte et que cette vision fugitive soit engloutie dans les ténèbres.
« Lumos, » dit Harry.
Sa baguette magique s'alluma et il sursauta. Pendant les quelques secondes où la pièce avait été plongée dans le noir, Bathilda s'était approchée de lui sans qu'il l'entende.
« Vous êtes Potter ?»
murmura-t-elle. « Oui ?» Elle hocha la tête avec lenteur et gravité. Harry sentit l'horcruxe se battre encore plus vite que son propre cœur. C'était une sensation désagréable, troublante.
« Avez-vous quelque chose pour moi ?» demanda-t-il.
mais elle semblait distraite par la lumière de sa baguette magique. « Avez-vous quelque chose pour moi ? » répéta-t-il. Elle ferma les yeux, et plusieurs phénomènes se produisirent simultanément. La cicatrice de Harry le brûla. L'Horcrux se mit à palpiter avec une telle force qu'il souleva l'étoffe de son pullover et la pièce sombre fétide se volatilisa momentanément. Il ressentit alors une joie soudaine et parla d'une voix aiguë, glacée.
« Attrape-le !»
Harry vacilla. La pièce obscure et malodorante sembla se refermer à nouveau autour de lui. Il ne comprenait pas ce qui venait de se passer. « Avez-vous quelque chose pour moi ? » demanda-t-il pour la troisième fois d'une voix beaucoup plus sonore.
« Là-bas »
murmura-t-elle en désignant un coin de la pièce. Harry brandit sa baguette et distingua les contours d'une coiffeuse surchargée sous la fenêtre au rideau fermé. Cette fois, elle ne passa pas devant lui pour le guider. Harry se faufila entre Bathilda et le lit défait, sa baguette levée. Il ne voulait pas la quitter du regard. « Qu'est-ce que c'est ? » demanda-t-il lorsqu'il arriva devant la coiffeuse sur laquelle s'entassait du linge sale et malodorant.
« Là !»
dit-elle en montrant le tas informe. Pendant l'instant où il détourna la tête pour scruter les vêtements enchevêtrés, cherchant des yeux une poignée d'épée ou un rubis, elle fit un étrange mouvement. Il l'aperçut du coin de l'œil et se figea d'horreur quand il vit le vieux corps s'effondrer et un long serpent en jaillir au niveau du cou. Le serpent frappa au moment où Harry brandissait sa baguette qui fut projetée vers le plafond sous la force de la morsure qu'il sentit dans son avant-bras. Sa lumière tournoya à travers la pièce dans un mouvement à donner le tournis, puis s'éteignit. D'un coup puissant, la queue du reptile l'atteignit alors au ventre, lui coupant le souffle. Il tomba en arrière, en plein sur la coiffeuse, au milieu du tas de vêtements crasseux. Harry pivota sur le côté, évitant de justesse un nouveau coup de queue qui s'abattit sur la coiffeuse à l'endroit où il s'était trouvé un instant auparavant. Le verre, à la surface du meuble, vola en une pluie d'éclats qui retombèrent sur Harry alors qu'il roulait sur le sol. À l'étage inférieur, il entendit la voix d'Hermione appeler « Harry !» Il ne parvenait pas à faire entrer suffisamment d'air dans ses poumons pour lui répondre. Une masse lourde et lisse l'écrasa sur le plancher et il la sentit glisser sur lui, puissante, musculeuse. « Non !» hurla-t-il, cloué au sol.
« Si !» murmura la voix. « Si !»
Accio, baguette !» Mais rien ne se produisit, et il avait besoin de ses mains pour essayer de repousser le serpent qui s'enroulait autour de son torse, vider l'air de ses poumons, enfoncer profondément l'Horcrux dans sa poitrine, tel un cercle glacé, frémissant de vie, à quelques centimètres de son cœur qui battait frénétiquement. Son cerveau fut balayé par une lumière blanche et froide. Toutes ses pensées occultées, son propre souffle noyé, des bruits de pas lointains parvenaient à ses oreilles. Tout s'évanouissait autour de lui. Un cœur de métal palpitait avec force contre sa poitrine. Et à présent, il volait, empli d'une sensation de triomphe, sans l'aide d'un balai ni d'un sombral. Il se réveilla brusquement, dans une obscurité pestilentielle. Nagini l'avait relâché. Harry se releva précipitamment et vit la silhouette du serpent se découper contre la lumière du couloir. Le reptile frappa et Hermione plongea de côté en poussant un hurlement. Le sortilège qu'elle avait lancé, détourné de sa trajectoire, s'écrasa contre la fenêtre au rideau fermé dont les vitres se fracassèrent. Un air glacé se répandit dans la pièce tandis que Harry se baissait pour éviter une nouvelle pluie de verre brisé. Son pied glissa alors sur un objet en forme de crayon, sa baguette. Il se pencha et s'en saisit, mais le serpent, à présent, emplissait toute la pièce, sa queue battant l'air avec violence. Hermione avait disparu de son champ de vision, et pendant un instant, Harry craignit le pire. Mais il y eut soudain une forte détonation et un éclair de lumière rouge. Le serpent se dressa alors dans les airs, heurtant brutalement au passage le visage de Harry, ses puissants anneaux s'élevant l'un après l'autre jusqu'au plafond. Harry brandit à nouveau sa baguette, mais au même moment, sa cicatrice le brûla plus douloureusement, plus intensément qu'elle ne l'avait fait depuis des années. « Il vient, Hermione, il vient !» Alors qu'il hurlait ainsi, le serpent s'abattit dans un sifflement sauvage. Tout ne fut plus que chaos. Il arracha les étagères du mur et de la porcelaine pulvérisée vola en tous sens pendant que Harry bondissait par-dessus le lit et saisissait la forme sombre d'Hermione. Elle hurla de douleur lorsqu'il la tira en arrière en travers du lit. Le serpent se dressa à nouveau, mais Harry savait que quelqu'un de plus redoutable que le reptile arrivait, quelqu'un qui se trouvait peut-être déjà à la porte du jardin. Sa cicatrice le faisait tellement souffrir que sa tête semblait sur le point de se fendre en deux. Le serpent plongea à l'instant où il bondissait en avant, entraînant Hermione avec lui. Quand le reptile frappa, Hermione hurla « Cofringo !» Son sortilège vola tout autour de la pièce, fracassa le miroir de l'armoire et ricocha vers eux en rebondissant du sol au plafond. Harry sentit la chaleur du maléfice lui brûler le dos de la main. Un morceau de verre lui entailla la joue tandis que, tirant Hermione derrière lui, il sautait du lit jusqu'à la coiffeuse détruite, puis se jetait dans le vide par la fenêtre défoncée. Le hurlement d'Hermione résonnant dans la nuit, leur corps tournoyant dans les airs. Sa cicatrice sembla exploser et il fut à nouveau Voldemort. Il traversa en courant la chambre fétide, ses longues mains blanches s'agrippant au rebord de la fenêtre lorsqu'il vit l'homme au crâne dégarni et la petite femme tourner sur eux-mêmes et disparaître. Il hurla de rage. Son cri se mêla à celui que poussa la fille et retentit dans les jardins sombres, dominant le tintement des cloches de l'église qui célébrait Noël. Et son cri était celui de Harry, sa douleur, la douleur de Harry. Que cela puisse se produire en ce lieu, là où cela s'était produit auparavant, à proximité de la maison, où il avait failli savoir ce que mourir signifiait, mourir. La douleur était si atroce, lui déchirait le corps, mais il n'avait plus de corps. Alors pourquoi sa tête lui faisait-elle si mal, s'il était mort? Comment pouvait-il éprouver cette douleur si insupportable? N'allait-elle pas cesser avec la mort? N'allait-elle pas disparaître? Dans la nuit humide et venteuse, deux enfants déguisés en citrouilles traversaient la place d'une démarche chaloupée. Les vitrines des magasins étaient couvertes d'araignées en papier. On voyait partout les ornements de pacotille dont les moldus se servaient pour évoquer un monde de sorciers auquel ils ne croyaient pas. Ils marchaient d'un pas souple, avec cette détermination, cette puissance, cette certitude d'avoir raison qu'il éprouvait toujours en semblables circonstances. Ce n'était pas de la colère. Il fallait laisser cela aux âmes plus faibles que la sienne. Mais une sensation de triomphe, oui. Il avait attendu ce moment, il l'avait espéré.
« Joli déguisement, monsieur !»
Il vit le sourire de l'enfant s'effacer lorsque celui-ci fut suffisamment prêt pour regarder sous le capuchon de la cape. Il vit la peur assombrir son visage maquillé. Puis l'enfant fit volte-face et s'enfuit en courant. Sous la robe, il tourna sa baguette entre ses doigts. Un simple mouvement et l'enfant ne retournerait jamais auprès de sa mère. Mais c'était inutile, tout à fait inutile. Il s'engagea dans une autre rue plus sombre. À présent, enfin, sa destination était en vue. Le sortilège de Fidelitas brisé. Mais eux ne le savaient pas. Il faisait encore moins de bruit que les feuilles mortes qui glissaient sur le trottoir lorsqu'il parvint à la hauteur de la haie au feuillage sombre et jeta un coup d'œil par-dessus. Il n'avait pas fermé les rideaux. Il les voyait nettement dans leur petit salon. L'homme, de haute taille, avec ses lunettes et ses cheveux bruns, faisait jaillir du bout de sa baguette des volutes de fumée colorées pour amuser le petit garçon en pyjama bleu, aux cheveux aussi bruns que ceux de son père. L'enfant riait et essayait d'attraper la fumée, de l'enfermer dans son petit poing. Une porte s'ouvrit et la mère entra. Elle prononça des paroles qu'il ne pouvait entendre, ses longs cheveux roux foncés lui tombant sur le visage. Le père, à présent, avait pris l'enfant dans ses bras et le tendait à sa mère. Il jeta sa baguette sur le canapé, puis s'étira en bâillant. La porte du jardin grinça un peu lorsqu'il la poussa, mais James Potter ne l'entendit pas. Sa main blanche sortit la baguette magique de sous sa cape et la pointa vers la porte de la maison qui s'ouvrit à la volée. Il avait franchi le seuil quand James arriva en courant dans le hall. C'était facile, trop facile. Il n'avait même pas pensé à récupérer sa baguette.
« Lily, prends Harry et va-t'en. C'est lui. Va-t'en. Cours. Je vais le retenir. »
Le retenir, sans baguette à la main. Il éclata de rire avant de jeter le sort.
« Avada Kedavra !»
La lumière verte emplit le hall exigu. Elle éclaira le landau rangé contre le mur. Elle se refléta sur les barreaux de la rampe d'escalier qui étincelèrent comme des paratonnerres frappés par la foudre, et James Potter tomba, telle une marionnette dont on aurait coupé les fils. Il entendait crier la femme à l'étage. Elle était prise au piège, mais si elle se montrait raisonnable, elle, au moins, n'avait rien à craindre. Il monta les marches, écoutant avec un léger amusement ses efforts pour se barricader. Elle non plus n'avait pas de baguette là-haut. Comme ils étaient stupides, trop confiants, pensant que leur sécurité était garantie par leurs amis, qu'on pouvait se séparer de ses armes, ne serait-ce que quelques minutes. D'un petit coup de baguette nonchalant, il força la porte, repoussa la chaise et les boîtes hâtivement entassées pour essayer de la bloquer. Et elle était là, tenant l'enfant contre elle. Lorsqu'elle le vit, elle laissa tomber son fils dans le petit lit derrière elle et écarta les bras, comme si cela pouvait l'aider, comme si, en cachant le bébé à sa vue, elle espérait qu'il la choisirait, elle, plutôt que lui.
« Pas Harry ! Pas Harry, je vous en supplie, pas lui !»
« Pousse-toi, espèce d'idiote! Allez, pousse-toi !»«
Non, pas Harry, je vous en supplie, tuez-moi, si vous voulez, tuez-moi à sa place !»«
C'est mon dernier avertissement !»«
Non, pas Harry, je vous en supplie, ayez pitié, pas Harry, je vous en supplie, je ferai ce que vous voulez !»«
Pousse-toi, idiote! Allez, pousse-toi !»
Il aurait pu l'écarter de force du berceau, mais il semblait plus prudent d'en finir avec tout le monde. Un nouvel éclair de lumière verte illumina la pièce et elle tomba comme son mari. L'enfant n'avait pas du tout pleuré pendant tout ce temps. Il parvenait à se tenir debout, accroché aux barreaux de son petit lit, et regardait le visage de l'intrus d'un air radieux et intéressé, pensant peut-être que c'était son père qui se cachait sous la cape et faisait jaillir d'autres lumières de sa baguette, que sa mère se relèverait d'un instant à l'autre en riant. Il pointa soigneusement la baguette magique sur la tête de l'enfant. Il attendait ce moment, la destruction de ce danger unique, inexplicable. Le petit garçon se mit à pleurer. Il venait de se rendre compte que ce n'était pas James. Il n'aimait pas l'entendre pleurer. Il n'avait jamais supporté les cris et les gémissements des tout-petits à l'orphelinat.
« Avada Kedavra !»
Il fut alors brisé. Il n'était plus rien que douleur et terreur, et il devait se cacher, non pas ici, dans les ruines de la maison détruite où l'enfant hurlait, pris au piège, mais loin, très loin.
« Non !»
gémit-il. Le serpent bruissait sur le sol crasseux, recouvert de débris. Et il avait tué le garçon, et pourtant, il était ce garçon.
« Non !»
Il se tenait à présent devant la fenêtre fracassée de la maison de Bathilda, plongé dans le souvenir de la plus grande perte qu'il eût jamais subie. Et à ses pieds, le grand serpent ondulait sur les éclats de verre et de porcelaine cassés. Il baissa alors les yeux et vit quelque chose. Quelque chose d'incroyable.
« Non ! Harry, ne t'inquiète pas, tout va bien !»
Il se pencha et ramassa la photo dans son cadre brisé. C'était lui, le voleur inconnu, le voleur qu'il cherchait.
« Non ! Je l'ai laissé tomber ! Je l'ai laissé tomber !
Harry, tout va bien, réveille-toi, réveille-toi !»
Il était Harry. Harry, pas Voldemort. Et ce qu'il entendait bruire n'était pas un serpent. Il ouvrit les yeux.
« Harry !»
murmura Hermione.
« Tu te sens bien ?»«
Oui, » mentit-il. Il était dans la tente, étendu sur la couchette inférieure d'un des lits superposés, sous une pile de couvertures. Il devinait l'aube proche, à en juger par le silence, et la lumière froide, mate, qu'il percevait à travers la toile du toit. Il était trempé de sueur. Il la sentait sur les draps et les couvertures.
On a réussi à s'échapper ?
Oui, dit Hermione. J'ai dû utiliser un sortilège de lévitation pour te mettre au lit. Je n'arrivais pas à te soulever. Tu as été très...
Des ombres violettes se dessinaient sous les yeux marrons d'Hermione, et il remarqua une petite éponge dans sa main. Elle lui avait essuyé le visage.
« Tu étais malade ? »
acheva-t-elle.
« Très malade. »
« Il y a combien de temps que nous nous sommes enfuis ?»«
Des heures. C'est presque le matin. »«
Et j'ai été... quoi ? Inconscient ?»«
Pas exactement, »
répondit Hermione gênée.
« Tu criais, tu gémissais, des choses, »
ajouta-t-elle d'un ton qui mit Harry mal à l'aise. Qu'avait-il fait ? Hurler ? Des formules de maléfice, comme Voldemort ? Pleurer, comme le bébé dans son lit d'enfant ?
« Je n'arrivais pas à t'enlever l'horcrux, » dit Hermione.
Il devina qu'elle voulait changer de sujet.
Il était collé. Collé à ta poitrine. Il a laissé une marque. Oh, je suis désolée. J'ai été obligée de jeter un sortilège de découpe pour le détacher. Le serpent t'a mordu aussi, mais j'ai nettoyé la plaie. J'y ai mis du dictam.
Il remonta son t-shirt humide de sueur et regarda. Il y avait à l'endroit de son cœur un ovale écarlate, là où le médaillon l'avait brûlé. Il vit aussi les traces de crochets à moitié guéris sur son avant-bras.
« Où as-tu mis l'horcrux ?»«
Dans mon sac. Je crois qu'il vaut mieux ne plus le porter pendant un certain temps. »
Il retomba sur ses oreillers et observa le visage grisâtre aux traits tirés d'Hermione.
« Nous n'aurions pas dû aller à Godric's Hollow. C'est ma faute. Tout est ma faute, Hermione. Je suis désolé. Non, ce n'est pas ta faute. Moi aussi, je voulais y aller. Je pensais vraiment que Dumbledore avait pu laisser l'épée là-bas pour que tu viennes la chercher. »
« Oui. Eh bien, nous nous sommes trompés. »
Que s'est-il passé, Harry ? Que s'est-il passé quand elle t'a emmené en haut ? Est-ce que le serpent se cachait quelque part ? Il l'a tué ? Elle t'a attaqué ensuite ?
Non, répondit-il.
C'était elle, le serpent. Ou le serpent était elle, depuis le début. Quoi ?
Il ferma les yeux. Il sentait encore sur lui l'odeur de la maison de Bathilda, une odeur qui rendait ses souvenirs horriblement vivants.
Bathilda avait sans doute dû mourir depuis un certain temps. Le serpent était en elle.
Tu sais qui l'avait placé là, à Godric's Hollow, pour qu'il m'attende.
Tu avais raison.
Il savait que je reviendrais. Le serpent était en elle.
Il ouvrit les yeux. Hermione paraissait révoltée, dégoûtée. Lupin nous a dit que nous aurions à affronter une forme de magie impossible à imaginer, reprit Harry.
Elle ne voulait pas parler devant toi parce qu'elle s'exprimait en fourche-langue, uniquement en fourche-langue.
Je ne m'en suis pas rendu compte sur le moment. Mais moi, bien sûr, je pouvais la comprendre.
Une fois que nous sommes montés dans la chambre, le serpent a envoyé un message à tu sais qui.
J'ai tout entendu dans ma tête. Je l'ai senti surexcité. Il lui a ordonné de m'attraper, et ensuite...
Il se souvint du serpent qui sortait du cou de Bathilda. Hermione n'avait pas besoin de connaître les détails.
Elle s'est transformée. Elle s'est transformée en serpent, et elle a attaqué.
Il regarda les traces de morsure.
Ce n'était pas pour me tuer, simplement pour me garder là, jusqu'à l'arrivée de tu sais qui.
Si seulement il avait réussi à tuer le serpent, toute cette expédition aurait valu la peine. Profondément écœuré, il se redressa et rejeta les couvertures.
« Harry, non, non, il faut absolument que tu te reposes. »
« C'est toi qui as besoin de dormir. Ne le prends pas mal, mais tu as une mine épouvantable. Moi, je vais très bien. Je vais monter la garde. Où est ma baguette ?» Elle ne répondit pas, se contenta de le regarder. « Où est ma baguette, Hermione ?» Elle se mordait la lèvre et des larmes lui montèrent aux yeux.
« Harry ?»
« Où est ma baguette ?» Elle tendit la main par terre près du lit et la lui donna. La baguette en bois de houx et plumes de phénix était presque coupée en deux. Un fragile filament de plumes maintenait les deux parties attachées. Le bois s'était complètement cassé en deux morceaux. Harry prit la baguette entre ses mains, comme s'il s'était agi d'un être vivant qui aurait subi une terrible blessure. Il n'arrivait pas à réfléchir posément. Tout n'était plus qu'un mélange confus de peur, de panique. Il tendit la baguette à Hermione. « Répare-la. Répare-la, s'il te plaît. »«
Harry, je ne pense pas que casser comme ça. »«
S'il te plaît, Hermione, essaie. »«
Réparo. »
Le morceau pendant de la baguette se rattacha à l'autre partie. Harry la leva. Lumos. La baguette produisit quelques faibles étincelles, puis s'éteignit. Harry la pointa sur Hermione. Expelliarmus. Une petite secousse fit remuer la baguette magique d'Hermione, mais elle resta dans sa main. Cette modeste tentative représentait un effort trop grand pour la baguette de Harry, qui se cassa à nouveau en deux. Il la contempla effaré, incapable d'admettre ce qu'il voyait. La baguette, qui avait traversé tant d'épreuves.
« Harry !»
murmura Hermione à voix si basse qu'il entendit à peine.
« Je suis vraiment navré. Je crois que c'est à cause de moi. Quand nous avons fui, le serpent nous attaquait et j'ai jeté un maléfice explosif qui a rebondi dans tous les sens. Il a dû atteindre.
« C'était un accident, » dit machinalement Harry. Il se sentait vide, assommé. « On trouvera un moyen de la réparer. »«
Harry, je crois que ce sera impossible, »
répondit Hermione, des larmes coulant sur son visage.
« Tu te souviens de Ron, quand il a cassé sa baguette le jour où la voiture s'est écrasée contre l'arbre. Elle n'a plus jamais été comme avant. Il a dû en prendre une nouvelle. »
Harry pensa à Ollivander, enlevé et séquestré par Voldemort. Il pensa à Grégorovitch qui était mort. Comment allait-il se procurer une nouvelle baguette? « Eh bien, » dit-il d'un ton faussement détaché, « je vais t'emprunter la tienne. » Pendant que je monterai la garde. » Le visage luisant de larmes, Hermione lui tendit sa propre baguette et il la laissa assise à côté du lit, n'ayant plus d'autre désir que de s'éloigner d'elle.